J'aimerais vous proposer une réflexion ce soir sur le nirvana. C'est un mot qui peut engendrer pas mal de projections. Ah ouais, moi j'ai envie d'être au nirvana. Le paradis. Le but de la méditation est personnel à chacun. Mais lorsque nous prenons les quatre vérités nobles, ce qu'on appelle la cessation de la souffrance ou la troisième vérité, lorsqu'il y a un arrêt du désir ou de la soif, de la projection, du sens du temps, de la limite de la personnalité, eh bien, le corps et l'esprit humain peuvent expérimenter ce qu'on appelle le nirvana. Et au fond, on ne peut pas vraiment en parler parce que le fait même d'en parler le tue. Parce que le nirvana, ça n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est totalement ici et maintenant. C'est un état d'être. Et si nous le cherchons, nous le perdons. Et lorsque nous en parlons, nous le tuons. Et pourtant, le Bouddha a proposé un chemin progressif, contrairement à certains maîtres comme Krishnamurti ou d'autres qui nomment la vérité ultime, mais qui ne donnent pas de chemin pour y accéder. Et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude dans tout cet effort qu'a fait le Bouddha pour nous proposer ce chemin progressif à travers la pratique de la méditation. Donc même si le nirvana, nous le tuons en le cherchant, nous pouvons quand même mettre en place un désir puissant de libération. Et le Bouddha a employé deux mots. Le désir lié au monde conditionné, tanha, la soif, qui est un désir sans fin, qui est en fait la cause de la souffrance, et le désir pour la libération, chanda, qui est un désir à cultiver, parce qu'il nous permet de vivre la soif dans le monde conditionné. Dans un état de purification, dans un état de connaissance. Dans notre expérience, nous pouvons en tout cas bien savoir quand nous ne sommes pas au nirvana. Quand est-ce que vous n'êtes pas au nirvana? Franchement, il faut bien le dire. Et on peut faire référence aux deux premières vérités. Je ne suis sûrement pas au nirvana lorsqu'il y a un déni de l'expérience telle qu'elle est. Quand l'expérience est souffrance et que j'aimerais tellement qu'elle ne le soit pas, on peut en tout cas dire que je ne suis pas au nirvana. Vous êtes d'accord? Et là, ce que j'expérimente, c'est les deux premières vérités. La première vérité, c'est que les choses changent, que c'est éphémère et que je ne peux pas posséder l'expérience agréable dans ce monde. C'est juste un réel que je peux constater lorsque j'approfondis l'expérience dans le corps et l'esprit. Et le deuxième, c'est que si je me mets en opposition avec cette réalité-là, je souffre. La cause de la souffrance, c'est le désir. C'est-à-dire que quelque chose est et je veux autre chose. Au lieu de pouvoir m'unifier avec ce qui est, je suis toujours un peu en avant ou un peu en arrière ou un peu ailleurs. Et un esprit qui n'a pas compris et réalisé la première vérité, eh bien, c'est un esprit qui souffre. Lorsque les conditions deviennent douloureuses et que nous sommes prêts, c'est-à-dire que l'esprit est aria, est noble, quelque chose en nous est noble, la réponse que je donne à cette souffrance est une réponse d'ouverture. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je libère du karma, je purifie du karma passé, l'expérience douloureuse émerge. Et si j'arrive à l'accepter, à m'ouvrir à elle, à la saisir avec sagesse, le processus de purification est en place. Mais si l'esprit n'est pas cultivé, si il veut garder, maintenir ce qu'il a et qui lui plaît, et si aussi il a peur de perdre ce qu'il a et qui lui plaît, ou qu'il rejette ce qu'il a et qui ne lui plaît pas, on peut dire qu'il n'est pas dans le nirvana. Il n'y a pas de libération. Et il peut y avoir des bonnes conditions, mais c'est important de faire la différence entre de bonnes conditions et la libération. Tanha, cette soif d'existence ou de non-existence, c'est une sorte de fascination pour le monde conditionné. Ce monde nous fascine. Et je me souviens quand je suis allée la première fois en Inde, j'ai été touchée par la qualité spirituelle du peuple lui-même. Le peuple indien n'est pas tellement fasciné par ce monde, il est fasciné par la réincarnation. Qu'est-ce que j'aurai comme incarnation future? Ça le fascine beaucoup plus. Et ça crée au niveau énergétique quelque chose de tellement moins tendu que dans le monde occidental où tout est lié à cette incarnation et moi, ce que je vais pouvoir avoir et mes ambitions et mes souhaits. Si pour les hindous, si je me comporte bien dans cette vie, j'en aurai une meilleure après, ça suffit. Ah, c'est intéressant, c'est un autre conditionnement, mais c'est intéressant de voir la différence et de sentir la différence. Pour ne pas croire que notre conditionnement est le seul. Le samsara, ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire ce que le corps et l'esprit expérimentent depuis le moment de la naissance jusqu'au moment de notre mort, c'est un monde qui nous donne certaines choses, mais pas d'autres. Il nous donne certaines satisfactions, mais il nous donne aussi et forcément des insatisfactions. Et c'est important de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Si la seule chose que je fais exister, c'est ce monde-là, je suis terriblement à la merci de ce qui peut arriver à moi, à l'autre. Et le stress fait forcément partie de mon expérience. Donc, en étant ici et maintenant, en travaillant la présence, en continuant à être là, nous commençons à sentir une appartenance autre autre que l'appartenance à ce monde. Et si vous imaginez, ou plutôt si vous expérimentez juste maintenant le fait d'être là, je suis là. Ça veut dire que je contemple ce corps, je le sens, je peux voir les autres dans la salle, je peux percevoir l'espace, le silence. La contemplation elle-même, le fait même de voir, est-ce qu'il est personnel? Est-ce que quand je vois, quand j'observe ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, il y a quelqu'un de jeune ou de vieux, quelqu'un qui s'appelle Anne ou Pierre, quelqu'un qui est homme ou femme, qui est petit ou grand? La capacité de voir elle-même est totalement impersonnelle. Elle emploie un corps et un esprit pour pouvoir contempler, mais de par sa nature, elle est impersonnelle. Et bien sûr, je vais contempler mon corps comme un corps, et l'autre contemplera son corps comme un corps, mais je peux contempler le corps des autres. L'acte de contemplation est le même que je contemple à l'extérieur ou à l'intérieur. Simplement, là c'est le sens de la vue, à l'intérieur, c'est le sens du toucher, du mouvement. C'est un autre sens, mais la contemplation est la même. Et pour pouvoir de plus en plus comprendre notre appartenance au nirvana, c'est essentiel de développer cette présence. Sentir quand il y a la soif d'existence ou quand il y a une absence de soif. Quand c'est agréable, désagréable ou neutre. Quand les pensées sont envahissantes ou quand elles sont simplement là. Le nirvana, c'est du rien, mais c'est un rien qui fait peur au moi, parce que le moi, il croit toujours qu'il doit avoir quelque chose. Je disais hier, ce matérialisme spirituel, le moi doit avoir quelque chose. Et il croit que s'il n'a rien, il meurt, alors que lorsqu'il n'y a rien, c'est qu'il y a tout. Et dans le monde, nous pouvons voir combien il y a une erreur quelque part dans le fait de n'avoir que ça, que cette croyance à un moi qui veut avoir. C'est très douloureux, ça mène nulle part, ça mène à un déséquilibre. J'ai trouvé une parole de saint Augustin. C'est tellement la même chose dans une totalement autre tradition. Saint Augustin dit « Et nous serons toujours insatisfaits, tant que nous ne le verrons pas. Il est la beauté infinie et l'amour infini, tout est reflet de Dieu, et à travers ces reflets, c'est lui que nous cherchons. » Nous serons toujours insatisfaits tant que nous n'aurons pas quelque chose d'ancré réellement dans ce qui est au-delà. Et nous pouvons avoir tellement de gratitude pour le Bouddha qui nous permet de le faire ici et maintenant, là tout de suite, juste en écoutant le silence. Lorsqu'il y a ce lâcher prise de la croyance que je suis l'expérience et la pure contemplation des choses telles qu'elles sont, nous nous approchons du nirvana. C'est comme une petite goutte de nirvana. C'est Ayakema qui dit, j'ai trouvé cette parole, je trouvais questionnant. Je ne sais pas où le Bouddha dit ça, mais c'est tiré d'un bouquin d'Ayakema. Le Bouddha a comparé les gens à quatre sortes de récipients en terre. Le premier récipient est plein à ras-bord d'une eau croupie, ce sont nos vues et nos opinions. J'aimerais juste préciser que quand on lit ce genre de choses, il faut bien voir que nous sommes ces quatre sortes de gens suivant quand. Il n'y a pas un fixé dans cette catégorie-là et l'autre dans l'autre. Donc le premier récipient, il est plein à ras-bord de nos croupies, nos vues et nos opinions. Le deuxième comporte des trous au fond. On peut y verser toute l'eau qu'on veut. Elle s'enfuit aussitôt. Lorsque ce genre de personne entend le dharma, il entre par une oreille et il ressort par l'autre. Le troisième genre de récipient présente des fissures. On a beau y verser le dharma, il s'échappe lentement et le récipient est de nouveau vide. Le seul récipient utile est le quatrième. Il n'a aucun trou ni aucune fissure et il est totalement vide. Nous n'avons aucun trou et aucune fissure à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'accueil totale, et pourtant cette capacité d'accueil ne crée aucune saisie, elle est en même temps vide. Et le dharma, c'est tout. Bien sûr, ce sont les paroles du Bouddha, parce que ces paroles nous orientent, mais le dharma, c'est toute expérience que je fais. La question, c'est comment est-ce que je crée de cette expérience-là une richesse ? C'est un bhikkhu qui dit « L'éveil, cette inébranlable ouverture hors de l'angoisse et de l'ignorance, ne se produit pas par hasard. » Il résulte de la lutte courageuse et souvent solitaire d'une personne avec sa propre faiblesse. Pour boucher les trous et les fissures et créer le vide à l'intérieur, il y a ce chemin qui est là, que je peux pratiquer. Le samsara, c'est le monde du bien et du mal, du désir. Et le nirvana, c'est ce qui voit, c'est ce qui sait, c'est ce qui peut purifier cette masse de souffrance et d'aveuglement. Le nirvana n'est pas vraiment une expérience, c'est une transcendance, et lorsque la conscience vient dans un corps et un esprit et qu'elle essaye de nommer l'expérience, elle se rend compte que c'est impossible de le nommer. Je vous lis cette petite parole que je lis souvent mais que je trouve assez chouette, c'est d'Anthony de Melo. À la question de savoir ce qu'est l'illumination, le vieux sage se montre peu bavard. Il a pourtant répondu une fois à son fils cadet qu'il avait alors le sentiment d'être un idiot. Au jeune homme étonné, il explique « Eh bien fils, c'est comme si pour entrer dans une maison, on montait sur une échelle, qu'on cassait un volet et puis une fenêtre pour s'apercevoir plus tard que la porte d'entrée était ouverte. » Parce que vous n'y croyez pas que c'est le nirvana de juste être là et de contempler. C'est ça le problème. C'est le seul problème. Dans le samsara, nous vivons dans les conflits, les comparaisons, les jugements, les séparations. Et si nous n'avons pas cet autre ancrage dans ce qui est au-delà, la vie est quelquefois franchement très 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 dure. Parce qu'il y a une nostalgie, nous savons bien que c'est pas ce que je suis, cette séparation. Et cette aspiration à être au-delà est forte, elle est puissante. Et elle emploie de mauvaises stratégies. J'essaye toujours de changer en croyant que ça ira mieux. Je vous lis Lama Yeshe. Nombre de nos problèmes viennent du fait que nous nous sentons toujours coupés de quelque chose dont nous aurions besoin. Nous ne nous sentons pas complets. Et c'est pourquoi, plein d'espoir, nous nous tournons vers d'autres, censés nous apporter ce que nous n'avons pas seuls. Tous les problèmes du monde, de l'angoisse d'une personne jusqu'aux guerres entre nations, peuvent être rapportés à ce sentiment d'incomplétude. Le samsara ne peut pas m'apporter un sentiment de plénitude. Ou alors momentané. Mais le nirvana, c'est quelque chose qui n'est ni rien ni quelque chose, qui n'apparaît ni ne disparaît, qui est disponible toujours, si je m'en souviens. Et alors, nous avons pied dans le monde de ce qui arrive et passe, dans le monde habituel, ordinaire, et nous avons un pied dans ce qui contemple, dans la conscience elle-même. Et c'est quelque chose qui s'approfondit. Au début, nous le sentons vaguement, de temps en temps, on sent qu'il y a peut-être quelque chose là. Et peu à peu, ça devient un réel. Il y a vraiment cette compétence de réceptivité du monde conditionné qui est inébranlable. Donc nous cherchons ce que nous sommes déjà, mais nous ne le savons pas. Et à un moment donné, nous arrêtons de chercher. Et nous nous ouvrons à l'instant tel qu'il est. Je vous lis beaucoup de paroles ce soir, mais c'est comme ça. Un disciple vient voir son maître et lui demande de lui donner quelques conseils en partageant ses expériences après 10 ans de pratique assidue. Et son maître lui dit « Tu manques la cible, ce ne sont que des expériences. Toutes les expériences sont ce qu'on appelle des conditions qui changent. Ce que le Bouddha vise, c'est l'inconditionné. Ce que tu sens, touches, goûtes, vis, les expériences merveilleuses et celles qui sont terrifiantes ne sont toutes que des conditions qui changent. Au lieu de te lier aux conditions qui changent, tourne ton attention vers celui qui sait, celui qui voit. Demeurer dans la présence permet à la conscience de s'ouvrir à sa vraie nature, le non-temps. Reste dans la présence et la libération suivra. Qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment limité à mon histoire, à mes conditions, à mes circonstances, à ma personnalité? Ou est-ce que je sens que je suis aussi lié à celui qui voit, celui qui sait, qui est vaste, tranquille, hors du temps? commençons par observer le qui suis-je de manière fine dans son conditionnement. Mais en fait, l'important, c'est juste je sais que je sais. Je sais qu'il y a conscience juste maintenant, ça suffit. Peu à peu, je lâche l'expérience. Le but de connaître l'expérience, c'est uniquement de la lâcher. Elle ne nous donne rien, l'expérience, que de fortifier la conscience et de pouvoir la lâcher. Et pour rassurer le moi, je rajoute que nous n'avons rien à changer à nos vies. Nous pouvons continuer à vivre le conditionnement qui est le nôtre, mais nous ne le vivons pas en croyant que c'est la seule chose qui soit, en croyant que c'est vrai, en croyant que c'est solide, permanent, réel. C'est une sorte d'arc-en-ciel. C'est une illusion. C'est un mouvement. Il s'agit donc en même temps de vivre dans le samsara en honorant la vie, en honorant notre corps, notre famille, le coucher du soleil, les glaces mocha, mais en nous souvenant, c'est pas ça, c'est aussi ça, mais c'est pas vraiment ça. Et alors nous pouvons voir chez l'autre la beauté de cette complexité qui est une sorte de mirage. C'est Milarepa qui dit « Heureux celui qui sait que le samsara et le nirvana ne sont pas deux. » Le samsara, ce monde, et le nirvana sont totalement ensemble. C'est parce que je suis dans un corps que je peux nommer le nirvana. Et sans nirvana, il n'y a pas de monde. Imaginez, il ne peut pas y avoir que des objets, il faut qu'il y ait l'espace. Alors nous focalisons sur les objets, personne n'est absolument fasciné par le rien, il n'y a personne qui reste des heures à regarder ce qu'il y a entre nous, mais c'est tout aussi important, ce qu'il y a autour de Pierre est tout aussi important que Pierre, il n'y aurait pas de Pierre sans ça. Donc nous pouvons nous souvenir en même temps de notre numéro d'assurance et de notre nature de Bouddha. Et pour approfondir cette unification entre ce qui est conditionné, ce qui est au-delà, ça demande du soin, ça demande un engagement, ça demande un effort. D'abord un effort de concentration pour éviter de ne jamais être là, valoriser les moments où je suis là et reconnaître quand je ne suis pas là, les nommer. C'est tout aussi important de dire « Waouh, là j'étais bien là pendant 10 minutes, impeccable. Après, je suis pas là pendant un bon moment, je me réveille. Oh, faut que je sois là. Ah, je suis là. Waouh, j'étais pas là. Combien de temps j'étais pas là? Ouh, je pense que ça devait bien faire. Il reste 5 minutes. Oh, ça faisait 35 minutes. Ah, 35 minutes que j'étais pas là. Intérêt pour la non-présence. C'est très important. D'abord, ça travaille l'équanimité. Et ensuite, ça purifie tous les moments où je n'étais pas là. C'est comme si je les remettais en lumière. C'est très important de faire ça. C'est tout autant important que d'être là. Et ensuite, lorsque l'expérience devient douloureuse, intéressez-vous beaucoup moins à l'expérience qu'à comment vous vous liez à l'expérience. Comment est-ce que je réagis? L'expérience est une fiction. Comment je réagis est ma responsabilité. C'est pour ça que de plus en plus, lorsque cette sagesse s'approfondit, je peux recevoir même les émotions perturbatrices en restant dans le jeu. Ça reste un jeu. Il est sacré parce que la nature humaine est ignorante. Et nous sommes sur cette terre, peut-être, pour une seule raison, c'est pour transformer l'ignorance en sagesse. Et une fois que nous sommes sages, nous n'avons plus besoin de revenir. Oh, ça, le moi, il aime pas. Hein. Il dit, alors je ne vais pas être trop sage, comme ça je reviendrai. Comment je réagis? Est-ce que je réagis en voulant absolument changer, être autrement, que ça panique? Ou bien est-ce que je réagis en m'arrêtant? Je m'arrête et je regarde. C'est personne qui regarde, c'est une compétence, c'est la conscience universelle. Il y a une goutte de conscience universelle en chacun d'entre nous. Moi et mes problèmes. J'ai trouvé ça, je crois que c'est moi qui avais écrit une fois. Nous avons toujours et déjà tout ce qu'il faut. Rien ne manque, rien n'est de trop. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas ce que nous sommes. Vous comprenez la différence? Je ne veux pas de problème dans ce monde conditionné. Eh bien, vous ne l'aurez jamais. Jamais. Mais si ce qui est ici et maintenant est accepté, et si je soigne le lien que je crée à l'expérience, eh bien, je me rends compte que je ne suis pas à l'expérience. Et j'en suis libre. Ici et maintenant, pas demain et après. Les conditions ne peuvent jamais nous empêcher de méditer, ni les conditions intérieures, ni les conditions extérieures. L'esprit, il est déjà libre. Le corps peut être mis en prison, mais l'esprit, pas. Il n'y a que moi qui mets mon esprit en prison. Et tout le travail de la méditation consiste à cette prise de responsabilité, je valorise les choses telles qu'elles sont. Et je vois qu'elles sont impermanentes, éphémères, parfois bonnes, parfois moins bonnes, que ça change. et que c'est impersonnel. Je ne dépends pas de ce changement. Je l'accueille. Je crois que c'est moi qui avais écrit ça. Quand la présence est claire et généreuse, elle reconnaît, inclut et apprécie l'ignorance autant que la sagesse. Toute expérience a alors un goût de libération. En général, nous regardons le monde en termes de ceci ou cela. C'est ceci qui est bien, ou autrement c'est cela. Et avec l'exercice de la méditation, nous commençons à joindre les choses. C'est ceci et cela. Il y a l'agitation et il y a la présence. C'est pas l'agitation ou la présence. Il y a l'expérience positive ou négative et il y a l'observateur. Et il n'y a pas plus d'observateur quand la présence est bonne. La méditation n'est pas meilleure quand l'expérience est bonne. Du tout. Même pire des fois. Parce qu'il y a plus d'attachement inconscient. Je ne suis pas soit dans l'intimité, soit dans l'espace. Je suis en même temps dans l'intimité et dans l'espace. Énergétiquement, quelque chose est spacieux et en même temps précis. Il voit clairement, je sens bien ces deux doigts qui se touchent là. Ça ne veut pas dire que j'ai le nez dessus. Et alors comme ça, le nirvana est toujours là. Ça n'est pas quelque chose à atteindre. Il y a cette petite parole, il y en a deux que je vais vous lire encore pour terminer. Cette petite parole, un maître zen est en train de mourir. Ses disciples l'entourent, pleins de respect et de tristesse. Et soudain, étonné, ils l'entendent dire, « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas quitter mes enfants, je ne veux pas laisser mon monastère, je ne veux pas abandonner mon bol. » Et puis, il se tourne vers eux et leur fait un clin d'œil complice. Un pied dans chaque monde. Le moi va continuer à mieux aimer la glace mocha que la glace pistache. Je déteste la glace pistache. Ok, pas de problème, mais ça ne veut pas dire que j'y crois. L'autre à côté, il adore la glace pistache, il y croit tout autant. C'est tout autant fort. Mon opinion, elle est conditionnée. Pourquoi est-ce que nous luttons? Pourquoi est-ce que nous faisons des guerres pour les opinions? Le monde est imparfait. Et c'est parfait. Et j'aimerais finir avec Maurice Béjart. Qui exprime exactement ça. D'ailleurs, c'est intéressant. Depuis là, j'entre un petit peu dans quelque chose d'ordinaire. Vous êtes d'accord? Quand on va voir les ballets Béjart, Béjart, il avait vraiment un lien artistique au niveau, équilibre entre les forces du samsara et du nirvana, incroyable. Il y a une puissance dans cette chorégraphie qui est, en tout cas pour moi, extrêmement touchante. Et quand je lis Béjart, ben je comprends, il savait, c'est quelqu'un qui savait. Alors je vous lis. « Je continue à marcher, à voyager. Je reste un voyageur. » Ce voyageur est à la fois égaré dans un monde illusoire où les apparences ne sont pas toujours très jolies et relié à un monde profond où le chemin se révèle d'une grande simplicité. Je fréquente donc simultanément le monde de la multiplicité chaotique, plein d'effets semblants, et le monde de l'unité, lumineux et simple. Heureux celui qui sait que le samsara et le nirvana ne sont pas deux.